L'information est un élément de connaissance. Alors, soyons des citoyens mieux informés. Radio Mandeléo, c'est l'heure du journal.
Sans plaisir de vous recevoir, mesdames, messieurs, bonjour et bienvenue à suivre cette édition du journal. D'abord les titres. Les combats entre les troupes de l'ESAM 23 et les forces armées de la République démocratique du Congo appuyées par les Wazalendo se sont poursuivis tôt le matin de mercredi 19 août 2026 dans plusieurs villages des groupements des Iralo en territoire des Calais. Tous Iralo est presque vidé de ses habitants, confirmés défenseurs des droits humains de la place. Pendant ces temps, fusils centrent une bombe larguée aux environs de 1h du matin le mercredi 19 août qui a touché l'hôtel Moilou, a fait deux blessés graves et d'importantes pertes matérielles. Les détails dans ce journal. Et l'alliance entre la République démocratique du Congo et la Tanzanie vise à renforcer la coopération sécuritaire et militaire face à l'insécurité dans la région de Grand Lac. Ces rapprochements pourraient permettre à la RDC de renforcer ses partenariats régionaux pour faire face aux défis sécuritaires tout en développant les échanges économiques avec la Tanzanie. C'est ce qu'est pensé l'enseignant Relations internationales de l'Université officielle de Bukavu qui vous suivra dans cette édition du journal. C'est tout pour les titres, mesdames, messieurs, Myriam Bomoufano, c'est mon nom, je suis à la présentation, Jean-Claude Ndaguia sur la mise en onde.
Pour que leur humeur cesse et que la vérité triomphe, tout le temps dans nos vies, chaque jour, pour que leur humeur cesse et que la vérité triomphe.
Radio Mandeléo, une source crédible d'information.
Nous l'avons annoncé au sommaire, les combats se sont poursuivis depuis la matinée de mercredi 19 août 2026 dans plusieurs villages des groupements des Iralo, en territoire décalé entre les troupes de l'ESAM 23 et les forces armées de la République démocratique du Congo, appuyées par les combattants Wazalendo. Les derniers villages du groupement des Iralo, à savoir Mianda, Charamba et Loulere, à la limite avec les territoires des Walikale au nord Kivu, seraient passés sous contrôle de l'ESAM 23 dans l'avant-midi de mercredi 19 août 2026. Ces derniers ont poursuivi la chasse contre les combattants Wazalendo qui auraient pris la direction des Biriko et Lulambo dans les territoires des Walikale au nord Kivu. Déjà les mardis derniers, les combats étaient intenses dans les Bunyangungu, Tushunguti, Katenderi, Mutale et Matutira. Un défenseur des droits humains dans la zone indique que presque tous Iralo est vidé de sa population qui aurait pris la direction des Biriko et Lulamba dans les territoires des Walikale, alors que d'autres habitants sont en pleine débandade dans la brousse. En cette période préparatoire de la rentrée scolaire, les écoliers et élèves du groupe des Iralo sont en difficulté avec même le risque de ne pas reprendre les chemins de l'école si des dispositions urgentes ne sont pas prises pour arrêter les hostilités. Ils dénoncent également les règles de la violence dans la zone et rappellent aux belligérants leurs différents engagements à travers le processus des Doha et des États-Unis. Et des personnes grièvement blessées, d'importantes pertes matérielles, sur le bilan d'une bombe larguée à Fizi Centre et qui a touché l'hôtel Moilou aux environs de 1h du matin de mercredi 19 août 2026. Dans une communication rendue publique, les secteurs Soukola Sud et Sud Kivu attribuent ces bombardements à l'ESAM 23 Chuaneo, indiquant que les drones qui ont frappé auraient piloté à partir du Rwanda. De son côté, les porte-parole de Chuaneo, basés à Minembwe, rejettent cette accusation et indexent plutôt les forces armées de la République démocratique du Congo et leurs alliés qui auraient tiré ces bombes pour, selon lui, se victimiser plus tard. Il précise que les lignes de front sont stables à Milembwe et ses alentours, mais ce sont plutôt les efforts de ceux qui tentent parfois d'attaquer dans certains coins, comme à Moukoko et ailleurs, mais sans voir un impact. Pendant ces temps, la sortie de ces 54 élus démocratiques américains ne traduit pas simplement une inquiétude sur le sort des Congolais. Elle relève surtout un désaccord politique aux États-Unis sur la manière dont l'administration Trump cherche à sécuriser l'accès aux minerais stratégiques congolais, notamment sa rivalité avec les autres puissances. C'est ce que pense l'analyste Joseph Baraka, directeur de l'Institut Patrice Emery Lumumba, au lendemain de la lettre signée par ses parlementaires américains. Selon lui, derrière cette bataille entre démocrates et républicains se trouve aussi la volonté de Washington de sécuriser durablement ses intérêts dans les ressources minières congolaises sans tenir compte de réalités sur les terrains. Il s'interroge dès lors sur les bénéfices réels que la RDC pourrait tirer de ces accords et s'inquiète des changements institutionnels qui pourraient, selon lui, favoriser des acteurs capables de garantir les intérêts étrangers dans les pays. Pour Joseph Baraka, cette situation doit surtout pousser les Congolais à exiger davantage des transparences et des contrôles sur les accords qui engagent leurs ressources. Il juge paradoxal que les élites américains demandent des comptes à leur propre gouvernement gouvernement sur une question qui concerne directement la République démocratique du Congo, alors que les parlementaires congolais ne les font pas auprès des institutions. Joseph Baraka estime que ces préoccupations doivent désormais nourrir les débats nationaux, notamment sur la gestion des ressources minières, le respect de l'ordre constitutionnel et les intérêts de la population. Il en parle dans cet élément.
Globalement, il faut dire qu'il s'agit purement et simplement d'une politique interne américaine. Ce n'est d'abord pas dans l'intérêt de la RDC, c'est d'abord les Américains eux-mêmes qui se posent la question sur la direction qu'ils donnent à leur politique étrangère. Pour le camp républicain, porté particulièrement par Donald Trump, le trumpisme républicain en particulier, c'est qu'il se méfie, il ne tient même pas compte du droit international. Disons souvent que, visiblement, il se passe beaucoup de choses sur le Congo, actuellement une nouvelle conférence de Berlin, mais qui a été faite sans nous, vous voyez un peu, une fois encore, mais ou alors avec la participation de certains parmi nous, mais qui ont jeté par la fenêtre tout ce qui était intérêt national, démocratie, dont vous venez de parler, ça veut dire participation du démos du peuple dans la décision sur son destin. Et donc, le Congo comme gâteau partagé par des gens sans foi ni loi et qui n'ont aucun respect des intérêts du Congo.
C'était là Joseph Baraka, directeur de l'Institut Patrice Emery Lumumba, qui sera l'invité de la rubrique Parlons-en au décès jeudi 20 août 2026 sur Radio Maendeleo. Entre-temps, le rapprochement entre la République démocratique du Congo et la Tanzanie s'inscrit dans un contexte de crise sécuritaire dans la région du Grand Lac, où toutes les parties veulent s'appuyer sur des acteurs régionaux afin d'inverser les rapports de force sur les terres. C'est ce que pense Audrey Mouke, enseignant au département des relations internationales à l'université officielle de Bukavu IOB, qui fait savoir que la sécurité et la coopération militaire sont les principaux enjeux de cette alliance. Les détails avec Omar Modekereza.
Selon lui, le gouvernement de la RDC veut obtenir un soutien de plus, après celui du Burundi, pour contenir la menace sécuritaire qui pèse sur certaines entités du territoire national. Audrey Mouke rappelle que les deux pays sont en relation à travers des mécanismes sécuritaires régionaux, comme la SAMI DRC et la SADC, qui avaient connu la participation des militaires tanzaniens. Cette mission avait combattu aux côtés des forces armées de la RDC à Sake au Nord Kivu, avant la prise de Goma au moment de l'AFC-M23 à janvier 2025. En plus des aspects sécuritaires, il fait savoir que des enjeux économiques entourent ces deals, car la Tanzanie est une voie stratégique permettant à certaines zones de la RDC d'accéder à l'océan Indien en passant par le port de Dar es Salaam. Audrey Mouke.
Le gouvernement congolais a besoin de soutien au niveau de la sous-région. Au niveau de la sous-région, le gouvernement congolais s'appuie sur certains États, notamment le Burundi, la Tanzanie, mais également le M23 bénéficie aussi de certains soutiens au niveau de la sous-région, notamment le Rwanda. C'est-à-dire, ce rapprochement a des motifs, a des mobiles sécuritaires. Il faut noter que ce n'est pas la première fois que la Tanzanie intervient aux côtés de la RDC. Dans le cadre de la SADC, la Tanzanie a participé à la mission de la SAMI DRC, et la SAMI DRC a essayé d'appuyer les FARDC, et les militaires tanzaniens ont combattu aux côtés des FARDC jusqu'au moment de la chute de la ville de Goma lors des combats autour de Sake. Et donc, il y a un mobile sécuritaire d'abord dans ce sens, mais il y a aussi des enjeux économiques. La Tanzanie constitue un partenaire commercial important pour la RDC. Les échanges concernant, par exemple, les produits agricoles, les marchandises, les minéraux. La Tanzanie représente également une voie stratégique pour permettre à certaines régions de la RDC d'accéder à l'océan Indien.
Pour rappel, à l'issue d'une visite officielle du président de la RDC en Tanzanie, le chef d'État des deux pays ont réaffirmé leur volonté de renforcer le partenariat stratégique entre eux.
Mesdames, Messieurs, en cours de diffusion, c'est l'édition du journal sur Radio Maendeleo. Merci de nous rester fidèles.
Suivez Radio Maendeleo en direct partout dans le monde sur www.radiomaendeleo.org. Pour être au parfum de l'actualité, visitez régulièrement les sites internet de Radio Maendeleo. Radio Maendeleo, c'est vous.
Parlant célébration dans cette édition du journal, l'Organisation Partenariat pour la Protection Intégrée PPI en sigle appelle à la protection de travailleurs humanitaires en République démocratique du Congo et à un accès sécurisé aux populations affectées par les conflits. Dans un communiqué publié à l'occasion de la 23e journée mondiale de l'aide humanitaire célébrée mercredi 19 août, cette organisation de défense de droits humains s'est dit préoccupée par les conditions dans lesquelles les humanitaires exercent leur mission en Nord Kivu, au Sud Kivu et à Ituri. Selon le PPI, les attaques, enlèvements et actes de harcèlement contre les personnels humanitaires et les convois des secours compromettent l'assistance destinée aux communautés vulnérables. L'organisation rappelle que les travailleurs humanitaires doivent être protégés pour pouvoir exercer leur mission conformément aux principes de neutralité, d'indépendance et d'impartialité. PPI exige ainsi le respect du droit international humanitaire, la fin de l'impunité des auteurs de ces violations, ainsi qu'un accès libre et sécurisé aux humanitaires pour porter assistance aux déplacés et aux réfugiés. L'organisation appelle enfin les acteurs humanitaires à maintenir leur engagement aux côtés des populations affectées malgré les difficultés rencontrées. Et avec vous, Hélène Boudjiriri, les médias du Sud qui vous sont appelés à renforcer leur engagement en faveur d'une information humanitaire fiable, vérifiée et responsable au service des communautés affectées par les crises. Message lancé mercredi 19 août 2026 par les réseaux de médias en ligne dans la région du Grand Lac, Rémy Lansigle, à l'occasion de la journée mondiale de l'aide humanitaire célébrée le 19 août de chaque année.
Dans un communiqué de presse rendu public et consulté par la rédaction des radios Maïdéléo, les réseaux de médias en ligne dans la région des Grands Lacs estiment que dans une province confrontée au déplacement des populations, à l'insécurité, aux épidémies et à des multiples besoins humanitaires, l'accès à une information de qualité constitue un enjeu majeur de protection et de cohésion entre les communautés et les acteurs de la réponse humanitaire. Les Remel rappellent que le rôle des médias ne doit pas se limiter à apporter les distributions ou les interventions des organisations humanitaires. Les professionnels des médias doivent également contribuer à expliquer aux communautés, à travers leur production, comment fonctionne l'aide humanitaire et comment les mécanismes de distribution sont organisés. Les opérations d'assistance humanitaire étant parfois accompagnées de plaintes, d'accusations ou de rumeurs, les Remel GL rappellent que le rôle du journaliste n'est pas de défendre une organisation humanitaire, ni de la condamner sur base d'informations non vérifiées. Le journaliste doit rechercher les faits, recouper les informations, recueillir les différentes versions et garantir les droits de réponse. Les Remel GL considèrent les médias comme un trait d'union essentiel entre les populations affectées et les acteurs humanitaires. De même, les personnes déplacées, retournées et les communautés d'accueil peuvent notamment utiliser les médias pour faire connaître les difficultés auxquelles elles sont confrontées. Cette structure demande aux organisations internationales d'associer les médias aux activités d'information et de sensibilisation afin de permettre une meilleure diffusion des informations humanitaires auprès des populations.
Merci Hélène Boudjiriri. Et dans la plaine de la Rosizi, toujours dans les cadres de cette journée, les habitants de la plaine de la Rosizi, particulièrement ceux de Kamanyola, souhaitent voir les organisations humanitaires développer des stratégies d'identification des bénéficiaires axées sur les critères de vulnérabilité. Le but de cette demande est de permettre aux vrais bénéficiaires d'accéder aux aides. Les détails avec notre correspondant dans la plaine de la Rosizi, Wendo Joué.
Une recommandation formulée ce mercredi 19 août à marge de la célébration de la journée mondiale de l'aide humanitaire. À en croire les habitants de Kamanyola contactés à cette occasion, la mobilisation des organisations humanitaires en faveur de la communauté affectée par les crises de cette entité nécessite une profonde reconnaissance.
La population n'a pas récolté dans les champs. Il y a de la famine qui règne à Kamanyola. C'est pourquoi cette assistance est très grand besoin à Kamanyola.
Nous disons d'abord merci aux humanitaires qui nous viennent souvent en aide. Et quand nos amis qui étaient encore à refuge, on sait qu'on est en train de faire quelque chose dans les milieux, on est en train de retourner à la maison.
Tout en saluant pour sa part cet engagement des organisations humanitaires, cette actrice de la société civile met en cause les critères de sélection des bénéficiaires pour certains qui, selon elle, ne tiennent pas compte du niveau de vulnérabilité alors que tout le monde est affecté par la crise.
Les retournés, quelques-uns, sont venus de Burundi, les autres de Lubarika, Ndolera et par-ci par-là. Tout le monde ne bénéficie pas de cette assistance. Je ne sais pas pourquoi on est en train de distinguer les gens. On prend quelques-uns, les autres restent.
Entre temps, à Katogota voisin, Jean-Marie Sengo, leader local, plaide pour une assistance abri à la communauté et la réhabilitation des infrastructures scolaires endommagées par les intempéries.
Ça fait longtemps que la population de Katogota, il y a au moins une année, où la population s'est dispersée d'ici par là. La majorité des maisons ici sont construites par des briques adobe. Il y a même des fissures, vraiment, il y a tant de maisons qui sont détruites. Aux humanitaires qui peuvent venir en aide avec les caches, des ménages pour acheter des tôles, des briques encore pour la reconstruction de leur maison. Par rapport aux écoles, les alors pour le moment ici, si une fois l'UNICEF peut s'impliquer, en fait d'approvisionner même les pupitres, ainsi que même des objets classiques pour les enfants vraiment.
Pour ce faire, malgré l'assistance des organisations humanitaires, le rétablissement de la situation sécuritaire demeure un atout, conclut notre source. de Kamanyola, Wendo Joué pour la radio Maendeleo.
Merci Wendo Joué. Avant la deuxième partie de cette édition du journal, je vous prends à l'Ankabika, une partie de la concession abritant le village d'enfants SOS Bukavu, situé au quartier Nyakaliba, commune de Kadutu, fait déjà l'objet des tentatives d'espoliation. L'alerte est lancée par plusieurs habitants de cette partie de la ville qui disent constater un mouvement inquiétant de personnes qui rôdent autour de cette concession.
Dans une correspondance adressée au gouverneur du site Kivu Sula F23, ses habitants expliquent que les parties les plus convoitées sont celles abritant les centres de santé et les centres d'apprentissage des métiers du village d'enfants SOS Bukavu. Ils ajoutent que 3 parcelles auraient même déjà été tracées par les spoliateurs, une situation qui inquiète ses habitants. Ils souhaitent que la lumière soit faite dans ces dossiers, afin que si vente il y en a eu, que cela ne se passe pas dans la clandestinité et sinon, que les spoliateurs soient identifiés et traduits en justice. Pour les collectifs des organisations de la société civile du Sud Kivu pour la paix, c'est inadmissible que cette institution soit spoliée au vu et au su des autorités. Au-delà du centre de santé SOS, qui fournit des soins à plusieurs centaines d'habitants de la ville de Bukavu, cette structure appelle que des jeunes apprennent des métiers professionnels grâce au centre d'apprentissage installé dans cette concession, en plus d'assurer l'encadrement des enfants orphelins. L'un des modérateurs de cette structure, Hippocrate Maroumé, en parle.
Le centre village d'enfants SOS, il est vraiment en cours d'expoliation. Il y a même les activités du centre de santé ont été suspendues à un moment donné. Les spoliateurs auraient déjà même vendu 3 parcelles. Alors c'est comme ça que les autorités en place, une fois alertées, ils sont arrivés sur place et on a encore ouvert les activités du centre. Il y a les centres de santé SOS qui est la cible. Il y a aussi les centres de formation SOS. Pour nous, comme société civile, nous savons que le village d'enfants SOS a contracté avec l'État congolais depuis les années 89. Une fois SOS n'a plus de possibilités de pouvoir poursuivre avec les activités, devrait nécessairement, à la fin de ces activités, céder le patrimoine SOS à l'État congolais ou à une organisation à vocation des activités que faisait SOS. Après avoir mené des investigations, nous avions compris qu'il y avait les anciens responsables de l'SOS. Il y a même un qui est Kinshasa, c'est lui qui téléguide la carte. La communauté ne peut pas accepter que nous puissions perdre ce centre qui a déjà fait vraiment beaucoup, beaucoup de choses dans la communauté.
Notez que dans leur correspondance, les habitants ciblent certains anciens dirigeants du village d'enfants SOS comme auteurs présumés de cette pratique. Nos efforts pour entrer en contact avec les responsables de cette institution sont restés sans succès.
La revue de presse, Radio Maïndéleu Cap, vous décrypte et vous présente les nouvelles des journaux paraissant à Bukavu et dans la capitale.
L'annonce du gouvernement congolais d'instaurer l'enseignement à distance dans 18 ans des santé à haut risque d'Ebola afin de limiter la propagation de la maladie à virus Ebola et l'appel aux agriculteurs d'ouvrir à éviter les couloirs empruntés par les hippopotames pour la saison culturelle A qui approche font partie des sujets commentés par la presse mercredi 19 août 2026. La revue de presse avec Hélène Boudjiriri.
Le potentiel fait savoir que, face à l'évolution de la maladie à virus Ebola et à l'approche de la rentrée scolaire du 1er septembre, le gouvernement annonce un dispositif ajusté comprenant de l'enseignement à distance léger dans 18 zones de santé à haut risque afin de garantir la continuité pédagogique. Ces plans, selon l'Agence congolaise des presses, prévoient le maintien des cours en présentiel dans les zones non touchées, couplé à un apprentissage hybride et léger pour les élèves des zones sous surveillance sanitaire. Sur un autre chapitre, Jambo RDC parle du projet de dialogue national inclusif porté par Félix Tshisekedi, qui devrait selon lui connaître davantage de précisions. Devant la diaspora, Félix Tshisekedi a réaffirmé sa volonté de poursuivre les initiatives visant à parvenir à une paix durable tout en défendant les principes de souveraineté et l'intégrité territoriale de la RDC. Sur le dialogue national, le président congolais estime que la cohésion entre les Congolais constitue un préalable au développement du pays. Les contenus exacts de cette future initiative restent toutefois à préciser car aucun détail sur les personnes ou composantes appelées à prendre part à ce dialogue ni les cahiers de sa mise en œuvre n'a été révélé. L'adresse annoncée à la nation devrait donc permettre de connaître les grandes lignes de ce dialogue, notamment sa finalité, ses acteurs et la manière dont les pouvoirs entendent conduire ces processus écrits. Jamboya ADC. De son côté, le courrier de Bukavu s'intéresse à la question environnementale à l'approche de la saison culturelle A dans la plaine de la Rosésie, en territoire d'Ouvira. Les agriculteurs dont les champs sont situés le long de la rivière Rosésie appelés à éviter d'occuper les couloirs de passage habituellement empruntés par les hippopotames. Le courrier de Bukavu fait savoir que cette recommandation vise à prévenir les affrontements entre les populations riveraines et ces animaux sauvages qui constituent un danger potentiel pour les communautés et peuvent également occasionner d'importants dégâts dans les cultures. Selon des techniciens de l'environnement contactés par les confrères, l'occupation des espaces et des passages naturels des hippopotames par les activités agricoles favorise les conflits homme-faune. Face à cette situation récurrente, les agriculteurs demandent aux services compétents de renforcer la protection et la délimitation des zones réservées aux hippopotames le long de la rivière Ouzizi. Ils estiment qu'une meilleure délimitation des couloirs des passages permettrait de réduire les incursions de ces animaux dans les champs et de protéger à la fois les populations et leurs moyens de subsistance. Les agriculteurs sont également encouragés à signaler rapidement toute présence inhabituelle d'hippopotames à proximité des habitations ou des zones cultivées et à éviter de tenter de les chasser ou de les approcher, conclut ces médias.
Communiqué avant de clôturer cette édition du journal, un message de reconnaissance du notable Chibalonza, Biaterana à Célestan, à la population du groupement des Moudaka et ses environs. Chers frères et sœurs du groupement et des environs, paix et considération à vous. Au nom de ma famille biologique et à mon propre nom, je viens du plus profond de mon cœur vous présenter mes sincères remerciements et toute ma reconnaissance. Votre élan de solidarité m'a profondément touché au moment des pillages et vandalismes par des hommes dont notre bas identifié. Chers compatriotes, ces actes orientés et supervisés par certaines personnes opposées au développement de notre chère cité des Moudaka ont causé d'énormes dégâts. Je tiens à saluer avec gratitude vos messages de compassion. Vous m'avez soutenu dans la douleur, vos messages d'alerte et votre vigilance. Grâce à vous, beaucoup de choses ont été rendues publiques à temps. J'ai saisi cette occasion pour demander aux hommes de bonne volonté et de justice et épris d'épée de bien vouloir s'impliquer pour ces dossiers, surtout aux autorités afin de faire tout pour qu'ils puissent mettre la main sur ces gens qui ont perpétré ces pillages et vandalismes de mon domicile. Ma demande simple: que je sois remis dans mes droits et que je retrouve mes biens emportés avant qu'il ne soit trop tard. Afin, je vous rassure, de me joindre à d'autres compatriotes afin de perpétuer la lutte pour la paix, le développement et la prospérité de notre contrée, ainsi que l'amour et l'unité de filles et fils du groupement des Moudaka en territoire des Kabarek. Que Dieu bénisse et protège les groupements des Moudaka et sa population. Honorable Célestin Chibalonza Biaterana, notable du groupement des Moudaka, signe le présent communiqué. Et voilà ce qui met fin à cette édition du journal, mesdames, messieurs, présentée par Myriam Mamoufano, Jean-Claude Ndaga sur la mise en onde. Au revoir et prenez soin de vous.